BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons le collectif FRAC avec trois de ses membres, Fabienne, Marthe et Laurence. Bonjour mesdames.
Bonjour.
On commence par présenter le collectif FRAC. Qu'est-ce que ça signifie tout d'abord?
Alors, moi c'est Fabienne, je suis chargée de vous présenter le collectif. Donc FRAC, ça veut dire forte, fière, féministe, radicale et en colère. Donc il y a plein de choses dans ce nom. Oui, parce qu'on pense que les femmes sont fortes, etc. Et radicale, parce qu'on prend, on est déterminé, mais on prend les choses à la racine. Et la racine, pour nous, des questions féministes, c'est le patriarcat. Je vous lis sur notre page Facebook ce qui a écrit comme description. Collectif de féministes du Mantois, engagé à dénoncer les violences faites aux femmes, rendre visibles toutes les dominations et déterminer à mettre à bas le patriarcat. Donc vous pouvez aller voir notre page Facebook, ça s'écrit FRAC, voilà, avec 3 F. Et donc ça fait même pas 2 ans qu'on existe, hein, 1 an et demi, 2 ans. On a commencé à l'automne 2019. Bon, ça se prépare depuis un bout de temps, de créer un collectif sur le Mantois. Il y a eu d'autres collectifs qui ont existé dans les années précédentes, mais ça fait un bout de temps qu'il n'y avait pas vraiment de choses. Il y avait des fois quelques rassemblements pour le 8 mars au Palais de Justice ou pour le 25 novembre. Et voilà. Mais ce n'était pas vraiment organisé régulièrement. Alors, on est quand même assez nombreuses. On fait des actions très régulières. On a même une liste mail où on a presque 200 personnes inscrites. Et on a participé, les premières participations, ça a été de faire une flash mob sur la question du viol chorégraphié qui était inspiré d'une chanson sud-américaine, je crois que c'est mexicaine, qu'on a fait plusieurs fois dans Mantes. On l'a fait à la mairie, on l'a fait au marché, on l'a fait au palais de justice, on l'a fait dans pas mal d'endroits. On a même été l'affaire à la dalle du Val-Fouré. Voilà. Et puis, disons que la grosse action qu'on a fait cette année, c'est la préparation du 8 mars 2021, parce qu'on fait partie d'une coordination qui s'appelle On arrête toutes, qui appelle à la grève des femmes le 8 mars et qui l'a préparée dans toute la France. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire ça en faisant des rassemblements quasiment tous les mois. On a fait, je crois, 8 rassemblements le samedi et on a fait beaucoup au marché et on a eu beaucoup de monde. Et nos rassemblements, c'était assez étoffé parce qu'on donnait des actualités locales, des actualités nationales et internationales. On rendait hommage à certaines femmes, notamment récemment, on a rendu hommage quand il y a eu le décès de Gisèle Halimi et le décès de Anne Sylvestre, la chanteuse Anne Sylvestre qui était féministe. Et puis, des cas de grève de femmes, par exemple, ou des cas de manifestations, notamment sur les questions du viol et du harcèlement sexuel. Voilà, donc c'est assez large, je ne veux pas trop vous en dire. On fait aussi d'autres actions de type collage, banderoles de rue, banderoles de pont. Voilà. Et puis on s'est retrouvés quand même pour aller au 8 mars où on est allé à la manifestation parisienne où il y avait pas mal de monde. On y était allé l'année d'avant, en 2020, et en 2021 on y est retourné. Voilà.
Alors justement, le 8 mars, c'est quand même important, hein, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc à cette occasion, c'était sur le principe « on arrête toutes ». Rappelez-nous un peu le concept de cette mobilisation générale.
La grève des femmes, elle existe depuis l'Antiquité. Hein. Il y a eu une grève en Grèce des femmes qui a été même mise en scène par Sophocle, un artiste qui avait mis en scène ça. Et puis, je crois qu'elle a existé, ça a existé. La grève des femmes, c'est la grève non seulement du travail salarié, mais aussi du travail à la maison, de toutes les tâches que les femmes, on en parlera tout à l'heure, sont censées faire à la maison, les courses, le ménage, les repas, l'éducation des enfants, voilà, les papiers, enfin, voilà, c'est ça. Alors, c'est très difficile à mettre en place, ça fait plusieurs, déjà, c'est pas la première année hein, qu'il y a un mot d'ordre, mais il y a des pays qui sont arrivés, notamment en Amérique latine et en Espagne, où la grève de femmes est vraiment une réalité.
Alors, vous avez parlé donc des actions hebdomadaires, notamment en préparation du 8 mars, que le collectif FRAC mène. Est-ce qu'il y a d'autres actions menées par d'autres associations ou collectifs féministes auxquels vous êtes associés?
Alors, on est plusieurs, on est un certain nombre, mais on participe à. Donc, dans cette coordination, on arrête tout, il y a plein d'associations, notamment il y a Oser le féminisme, dont certaines d'entre nous sont membres, qui dénoncent aussi beaucoup le patriarcat. Et puis il y a le mouvement qui est né juste après MeToo, qui est Nous Toutes, il y a un groupe sur le 78, et quelques-unes d'entre nous sont membres aussi. Enfin, il n'y a pas d'adhésion, mais c'est comme ça, on est sur des listes WhatsApp ou des listes mail. Et on a fait plusieurs actions. On a fait une action en février. Il y avait le procès de la jeune fille Julie qui avait été violée et harcelée par une vingtaine de pompiers, je crois. Elle avait entre 13 et 15 ans à l'époque. Donc c'était un procès très important. Et on est allé, on a initié un petit rassemblement. C'était en février et il faisait neiger, mais on était contente parce qu'on a eu 30 personnes qui sont venues en 3 jours. C'était vraiment bien à Versailles. Et puis la dernière action à laquelle certaines d'entre nous ont participé, c'est l'opération baguette de sachet pour les baguettes de pain chez les boulangers, avec un violentomètre et les numéros d'urgence quand les femmes sont agressées, sont violentées, que ce soit à la maison ou en dehors. Voilà. Donc ça, on a été certaines d'entre nous dans les boulangeries de nos propres villes et villages à pouvoir donner ces... C'est la ville de Paris qui avait financé ces sachets de baguettes. Et là, il est conseillé, on demande à des maires de le faire. Normalement, il y a le maire de Trappes, je crois, qu'on a acheté 5000. Il y a d'autres villes qui vont le faire.
Alors, toutes les trois, vous représentez plusieurs générations différentes, ce qui va permettre un petit peu de voir l'évolution de la place de la femme dans la société au fil des années. Bah, quelle est-elle, cette évolution ?
Ben en fait, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites au long de l'histoire, grâce au combat des femmes, que ça soit pour le droit de vote, la mixité, l'égalité salariale, la parité, l'avortement, la contraception. Mais bon, on sait que c'est des droits qui ont été acquis, mais qui restent fragiles, puisque on voit que dans certains pays, on pense notamment pour l'avortement, où certains pays veulent notamment revenir dessus. Les salaires, c'est toujours pas d'actualité, puisque il y a une moyenne de 23% à poste égal, donc de salaire en moins en France pour les femmes. Et donc, ces droits sont jamais acquis et ont même reculé. Donc les femmes, pourtant, ont participé aux grands changements sociaux dans l'histoire. C'est vrai que les femmes sont parties prenantes. Rien n'est encore acquis, en fait.
Là, donc, on parle vraiment des aspects techniques. Et sinon, au niveau du regard extérieur, le regard des gens sur ce sujet, est-ce que les mentalités ont évolué ?
Alors, ça dépend si on parle du regard extérieur sur les femmes en général ou sur les féministes. Les femmes en général, c'est vrai que la femme, elle a beau parler, que ça soit dans les hautes sphères ou quoi, elle est écoutée mais jamais entendue, puisque l'homme a toujours, avec cette société patriarcale, a toujours eu le pouvoir, même par rapport aux femmes. Et par rapport aux féministes, les féministes sont vues un peu comme des personnes un peu hystériques, qui en veulent aux hommes, alors que de toute façon, c'est pas du tout ça, puisque tout ce qu'on veut, c'est la parité, donc que ça soit dans le couple ou au travail. Et il y a quand même eu une évolution notable ces dernières années avec le phénomène MeToo, qui a explosé partout grâce... Donc là, le phénomène MeToo a mis l'accent sur toutes les inégalités et les violences qui étaient pas du tout dénoncées, où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient en toute impunité par le pouvoir, en fait.
Alors là, on est en pleine période de crise sanitaire. À ce propos, donc, qu'est-ce que le confinement et la crise sanitaire, comment ils ont mis en lumière le rôle des femmes dans cette période particulière, le rôle essentiel des femmes ?
Alors, il faut savoir qu'au niveau de la crise sanitaire, les emplois, justement, directement impactés, notamment à l'hôpital. À l'hôpital, c'est 70% des emplois qui sont féminins. Sage-femme, aide-soignante, agent d'entretien. Et c'est des emplois souvent qui sont sous-payés. Et donc, les femmes sont impactées dans le travail et également à la maison, puisque quand il y a un mari violent, les violences explosent. Elles sont encore plus violentées. Et il y a aussi les tâches quand les enfants sont pas à l'école, donc elles doivent aussi en même temps faire l'éducation. Donc c'est elles souvent qui doivent prendre des congés par rapport à leur employeur parce que à cause de la crise du Covid, voilà.
On a parlé aussi des métiers de femmes qui étaient en première ligne. On a beaucoup parlé des soignantes dans les hôpitaux, mais il y a d'autres métiers qui ont été plus invisibilisés, je pense, peut-être c'est des questions politiques, mais je pense au niveau de l'enseignement notamment, où effectivement c'est très compliqué pour que soit qu'on passe de la maternelle jusque au prof de lycée, y compris même dans les facultés, et puis aussi les femmes de ménage par exemple, que ce soit dans les grandes sociétés, dans les hôtels, etc., ou même à la maison, les femmes qui sont en service à domicile, qui ont continué à travailler. Donc c'est vrai que ça a été, c'est pour parler que quelques métiers, hein, parce qu'il y en a beaucoup des métiers dits féminins qui sont souvent sous-payés, voilà, mais elles étaient en première ligne.
On va parler à présent de vos revendications. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. D'abord, les salaires. Ça peut paraître effectivement évident, mais forcément, vous demandez à ce que les salaires soient équivalents chez les hommes et chez les femmes.
Oui, les salaires, on révèle toujours une différence de salaire entre les hommes et les femmes. Les femmes, souvent, se heurtent à des plafonds de verre. Elles sont peu au poste de direction et sur les grandes entreprises. Elles sont freinées souvent dans leur carrière par leur maternité, par exemple. On va plus facilement recruter un homme parce qu'on va estimer bizarrement qu'un homme n'a pas d'enfant à s'occuper en tout cas, et on va plutôt préférer plutôt qu'une femme qui risque d'avoir une maternité tout au long de sa vie. La vie professionnelle d'une femme, elle est marquée par elle est assez jeune pour avoir des enfants, donc c'est inquiétant pour l'entreprise. Une fois qu'elle a des enfants, elle va s'absenter par exemple quand ils sont malades, ce genre de choses, donc ça freine leur carrière. Et forcément, la retraite, au bout de votre vie professionnelle, la retraite va s'en ressentir puisque vous êtes moins payé. Que souvent, quand les enfants arrivent, il y a beaucoup de femmes qui s'arrêtent de travailler ou qui travaillent à temps partiel. Donc, elles vont y perdre au niveau de la retraite, évidemment. Donc déjà, c'est vrai que les revendications essentielles dans le travail, c'est évidemment le même salaire que les hommes. Les femmes sont plus diplômées que les hommes actuellement. Mais on doit encore prouver nos compétences. Et souvent, on nous dit les femmes, on ne les recrute pas, ou les femmes, on les paye moins parce qu'elles sont moins compétentes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus entendre. La première loi sur l'égalité salariale date de 1972. Il y a eu 10 lois et décrets depuis pour faire avancer cette inégalité. Mais la plupart du temps, les entreprises ne sont pas assez contrôlées et il n'y a pas de sanctions. Donc, ça continue. Donc, sinon, comment on peut expliquer cette différence salariale? C'est souvent parce que aussi les dirigeants, ce sont des hommes et qu'ils n'ont pas forcément envie de perdre leur prérogative ou leur pouvoir, en quelque sorte. Or, la vie économique des femmes, c'est ce qui va faire que des femmes, par exemple, qui vivent seules avec leurs enfants, elles ont d'énormes difficultés pour vivre correctement parce qu'elles ont souvent des emplois précaires. Souvent, elles ont des CDD, souvent, elles ne travaillent pas à temps plein. Et c'est très difficile pour elles, pour leur quotidien.
Alors, on a parlé donc du travail. Maintenant, on va parler de la vie à domicile. Là aussi, il y a des changements à effectuer. Qu'est-ce qui doit changer concernant la vie à la maison entre les hommes et les femmes?
Alors, les femmes, elles ont la double journée. Elles travaillent comme les hommes. La plupart des femmes travaillent maintenant. Dans les couples, c'est difficile de trouver des couples, des foyers qui peuvent vivre avec un seul salaire. Donc le travail des femmes est important. Mais elles ont la double journée. Elles rentrent du travail et elles doivent en plus s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, de l'éducation, de toute la logistique, en fait, de l'organisation de la vie familiale. Souvent, elles le font seules. Les tâches ménagères, évidemment, ça c'est quelque chose qu'elles sont seules souvent à le faire. Ce qui doit changer, c'est que les hommes doivent prendre leur part du travail, parce qu'on entend souvent les femmes doivent demander. Elles doivent demander de l'aide, c'est pas une aide. L'homme, il doit pas apporter une aide, il doit faire sa part de travail. Dans un foyer, il y a des enfants, c'est aussi les enfants du mari. Donc, il ne doit pas attendre que sa femme lui demande de faire des tâches ménagères. C'est un travail de groupe. Les rôles sont distribués aussi. C'est maman qui doit s'occuper en particulier des enfants. On le voit bien pendant le confinement. Elles doivent tout gérer. Donc non, pourquoi les femmes doivent en particulier s'occuper des enfants et l'éducation aussi. Moi, j'ai travaillé dans une école. Systématiquement, on appelait les mamans quand il y avait un problème avec l'enfant. Quand l'enfant était malade, c'était la maman qui venait, même si on voit de plus en plus de papas qui viennent prendre leur enfant, etc. En grande majorité, c'est quand même les mamans qui s'occupent de tout ce qui concerne les enfants, leur santé, leur habillement, la vie familiale, etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un vagin ou un pénis pour faire ces tâches-là. Donc, ce qui doit changer à la maison, c'est ça en fait, c'est que les hommes, ils prennent leur part du travail et que les femmes ne s'excusent plus de demander de l'aide et qu'elles la reçoivent. Il faut faire tourner la maison, tout le monde doit s'y mettre.
Je voulais dire aussi là-dessus, c'est que il y a de plus en plus de femmes qu'on dit parents isolés, il n'y a pas de conjoint, et qui ont toutes ces tâches à faire justement, et on va en discuter tout à l'heure, mais je pense qu'au niveau des infrastructures de services, de crèches, de garderies, de lieux où on peut laver le linge, etc. Je pense qu'il y a des choses à faire qui ne soient pas seulement à l'intérieur de la famille, mais aussi qui soient prises en charge localement.
Alors justement, concernant les services publics notamment, concernant les logements, là aussi, il y a des difficultés rencontrées par les femmes, lesquelles ?
Alors, ça dépend des femmes, justement. Ça dépend souvent de la situation de la classe sociale des femmes. C'est sûr qu'on ne vit pas la même chose quand on a une grande maison et une femme de ménage et un jardinier, etc. Et qu'on a un conjoint qui gagne bien et soi-même avec un salaire plus élevé. C'est pas la même condition que quand on est une femme seule et qu'on est au SMIC ou qu'on est à temps partiel ou que on a une journée, on est caissière et on a une journée à trous, comme on dit, et qu'on a deux, trois enfants et qu'on vit en HLM. On peut pas dire que toutes les femmes à ce niveau-là ont une situation d'égalité. Maintenant, c'est vrai que l'augmentation des salaires, l'accès à des services publics et d'aide pour les mères qui sont seules, les femmes isolées, avec des gardes d'enfants de façon plus accessible, parce que c'est pas donné d'avoir une nourrice ou d'aller à la crèche, d'avoir et donc c'est déjà beaucoup plus cher, et c'est pour ça que des femmes souvent dans les familles décident de garder les enfants surtout en bas âge plutôt que de continuer à les travailler. Après, c'est un effet boule de neige effectivement sur la retraite, sur les salaires, etc. Voilà. Donc sur la question des services publics, souvent aussi, ce sont les femmes qui font toutes les démarches administratives, que ce soit dans les caisses d'allocation familiale, à la Sécu, ou dans les postes. Et quand on voit que beaucoup de services publics de proximité disparaissent, ferment, ça fait encore du chemin à faire en plus. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu énormément ces dernières années de maternité qui ont fermé. Ça, c'est un problème pour l'accouchement, c'est grave, parce que vous faire plus de 50 km quand on va accoucher, c'est quand même grave. Donc, c'est quelque chose qui est très scandaleux sur la déconsidération qu'on a des femmes. Donc, la question des services publics est importante. Et il faut savoir aussi que, ça on le sait, que beaucoup de femmes s'occupent des parents âgés. Et que toutes ces démarches-là, elles les font aussi. En plus des démarches de la famille, elles le font aussi pour leurs parents. Voilà. Souvent, les femmes ont aussi cette charge. Il y a les charges des enfants et les charges de leurs propres parents qui sont âgés.
Sur un sujet beaucoup plus grave, on va parler du harcèlement et des violences sexuelles et sexistes. Quelle est la situation actuellement pour les femmes et que faire pour faire changer les choses? Parce que malheureusement, le phénomène persiste.
Oui, le phénomène persiste et il ne semble pas vraiment être arrêté par la justice, en fait. Hein. On a parlé tout à l'heure de quelques cas, Julie, avec les 20 pompiers, des petites filles de 11 ans violées par un homme de 28 ans et un autre de 20 ans. C'est deux affaires différentes, mais où, en fait, on remet en cause la parole de la victime. Le viol, c'est quand même le seul crime. Contrairement au vol ou au cambriolage, qui ne sont pas des crimes, mais c'est quand même le seul crime où la victime doit se justifier. Voilà. Et elle efface souvent aux paroles d'hommes qui, visiblement, ne doivent pas se justifier sur leur agissement, sur le fait que, est-ce que c'est normal d'avoir des envies sur des enfants ? Les pompiers ont prétendu, par exemple, pour Julie, qu'ils ne savaient pas qu'elle avait 14 ans. Enfin, comment est-ce qu'on peut entendre ça ? Donc, en ce moment, on voit qu'il y a énormément d'affaires. On se demande ce que fait la justice quand on sait qu'il y a à peu près 1% des viols qui sont condamnés en France. Il y a à peu près 1000 viols condamnés en France. Quand on sait qu'on estime qu'il y a 250 viols de femmes par jour, 250 femmes violées par jour et 1000 condamnations. La correctionnalisation des viols aussi, ça pose un problème. Donc quelque part, on a l'impression que la justice ne fait pas son travail. Donc finalement, ce n'est pas très grave. Les violences sexuelles. Il faut en fait arrêter cette culture du viol, ce qui autorise finalement les hommes à avoir des comportements comme ça, et puis ce qui nous fait dire à nous femmes, oh, mais c'est pas très grave finalement, bon, une main aux fesses, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, comme dirait je ne sais plus qui.
Moi, je voulais dire qu'aussi, le problème, c'est qu'il y a très peu de femmes qui osent porter plainte. Oui. Ça, et alors sur 100 plaintes, il y en a une qui va être gardée, qui va être prise en compte. Il y a aussi l'accueil des femmes dans les commissariats, même si ça avance, parce qu'ils essayent de former il y a beaucoup dans les commissariats, beaucoup d'employés ils veulent recevoir la formation pour recevoir les plaintes des femmes. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que c'est des hommes qui, déjà rien que le fait que ça soit un homme qui accueille une femme qui vient de subir un viol, ça devrait être systématiquement une femme. Et donc les plaintes ne sont pas prises en compte, donc les femmes ne portent pas plainte, donc c'est un cercle vicieux et les hommes ne sont pas condamnés. Donc voilà, c'est ça la culture du viol.
Et aussi le fait que c'est très difficile de porter plainte parce qu'il faut qu'elle prouve qu'elle a été agressée, violée, etc. Et que c'est vrai qu'elle ne porte pas plainte parce que souvent c'est compliqué parce qu'elle était seule, elle n'a pas de témoin quand c'est arrivé. C'est sa parole contre la parole du violeur et que... c'est un parcours de combattante que de dire je vais faire un procès. Et c'est pareil pour le harcèlement sexuel au travail ou ailleurs. C'est vraiment un parcours de combattante et souvent, eh bien, c'est la victime qui se retrouve être la coupable. Donc c'est compliqué et c'est vrai cette histoire de culture du viol dans la société que toutes les images qu'on voit, les images sexistes, que ce soit dans la publicité, il y en a un peu moins maintenant, mais il y en a quand même, ça revient dans certains films, le comportement de la femme qui doit être ceci, qui doit être cela, qui doit être jolie, qui doit être maquillée, qui doit bien s'habiller, voilà, l'image physique de la femme, toutes les images et les blagues sexistes qui continuent. Faut pas croire dans certains milieux, c'est vrai que ça continue. Et c'est pas seulement les milieux qu'on pense, hein, c'est beaucoup souvent dans les hautes sphères qu'il y a du machisme très important. Je sais pas, moi, quand dans l'Assemblée nationale, une députée qui vient en jupe ou en robe et qu'elle se fait siffler, c'est des gens très raisonnables, hein, notamment les députés. Ben non.
Donc c'est... Il y a l'éducation des garçons, l'éducation des filles. On éduque les garçons à être des conquérants, on les éduque à être courageux, à avoir une attitude virile pour rentrer dans le cercle des hommes, des vrais hommes. Cette virilité, elle fait du mal. Et à l'inverse, on éduque les filles à être douces, à être gentilles, à répondre gentiment, à pas vexer, hein, surtout si on vexe la virilité d'un homme, excusez-moi. Hein. Et quelque part, on baigne là-dedans. Autant les garçons que les filles sont élevés dans ces espèces de schémas qui reproduisent le patriarcat. Les filles, alors maintenant ça va mieux, les jeunes féministes, elles ont plus conscience que nous, en fait, de... Non, ça, c'est absolument pas normal et ça n'est pas acceptable, vous voyez. Nous, on est encore dans une génération où on nous a un petit peu élevés comme ça. Bon, une main aux fesses, allez, c'est pas très, très grave. Et puis, il y a aussi le problème, c'est qu'il me semble que la grande cause nationale de M. Macron, c'était la violence faite aux femmes. Les subventions des associations... agissent, les associations disent on a besoin d'argent. Un milliard d'euros, il nous faudrait un milliard d'euros pour vraiment lutter contre ce harcèlement, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. ce n'est plus acceptable. Et les hommes doivent l'entendre.
Je voulais revenir sur la question de l'éducation. C'est pas seulement la responsabilité dans les familles, mais c'est tout l'environnement de l'école. Voilà, il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle, par exemple, de cours à l'égalité, il y en a assez peu. Et puis tout l'environnement publicitaire dans les films, dans tout ce qu'on regarde à la télé, dans les comportements. Ne prenons comme exemple les jouets de Noël. On est revenu depuis quelques années, alors que ça avait disparu, au catalogue bleu pour les garçons, rose pour les filles, avec forcément une dinette pour la fille et un camion pour le garçon. Et c'est un recul énorme. Pourquoi un garçon ne pourra pas jouer à la dinette et une fille jouer au camion? Il y a tout ça qui est reproduit par la société et c'est un environnement. Les petites filles qui sont habillées en rose, pourquoi le rose tout le temps? C'est vraiment des clichés, mais tout ça, ça participe au fait qu'il y a une différenciation entre les filles et les garçons. Mais ça change, ça commence à changer, c'est vrai. Mais c'est quand même dur.
Du coup, rapidement, pour conclure, comment vous voyez l'avenir par rapport à tous ces problèmes de société concernant les femmes?
Moi, je veux dire, moi, je suis de la génération des années 68-70. J'ai connu le féminisme, un renouveau du féminisme après les années 68. Il y a eu un creux dans les années, fin des années 80-90. Et moi, je pense qu'il y a un renouveau très important depuis MeToo, mais aussi, il y avait quand même dans d'autres secteurs, le fait que le 8 mars est devenu extrêmement important, qu'il y a l'idée de la grève, qu'il y a des collectifs qui se créent un peu partout. Moi, je pense que, pourrait le dire en gros, de façon un peu emphatique, mais que je pense que le 21e siècle sera le siècle des femmes.
Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.